Gustave le Rouge, cinq histoires extraordinaires, le spectre seul. L'ombre semblait pleuvoir avec les fluides hachures d'une averse qui fuyait interminablement d'un ciel enfumé, pareil de ton au ciment noirci par de terreuses infiltrations, comme si cette indigente ruelle et toute la moussa de ville provinciale elle-même eussent été construites sous les voûtes fangeuses de quelques réservoirs souterrains. Déjà la nuit se blottissait aux angles de la triste salle de café où j'étais assis. Une maladroite et rougeaude bonne n'en finissait pas de remonter, avec une foule de bruits agaçants, une demi-douzaine de lampes grinçantes, et je bâillais mortellement, endolori par le tambourinement monotone des gouttes sur les vitres et le sourd pataugement des passants hâtés parmi les flaques d'eau sale. Bientôt je m'aperçus que depuis longtemps déjà, mes yeux distraits s'étaient fixés sur un homme à la physionomie chagrine qui, comme moi, semblait plongé dans le plus nauséeux désœuvrement. Ayant considéré attentivement, pendant que j'étais moi-même l'objet d'un pareil examen, son front dégarni, ses prunelles décolorées, ses paupières rougies et plissées d'une infinité de menues rides, sa lèvre inférieure pendante et son envahissante barbe grise, je fus saisi d'une soudaine pitié et, presque au même instant, avec une fulgurante rapidité, j'eus la conscience de posséder, au moins passagèrement, l'inexplicable pouvoir de m'immiscer aux plus intimes sentiments de l'inconnu et de m'identifier avec la substance de ses afflictions. Au moment où je l'observais, l'homme, dont le cœur paraissait vide et désolé, tournait toutes ses mélancoliques pensées vers les époques plus heureuses de son enfance. Le vivant et joyeux affairement de la ville maritime où il était né bruissait dans le lointain de son souvenir. Les spectres des choses passées se levaient avec les couleurs apâlies de l'oubli. Une opaque futaie de mâts s'érigeait avec des clairières de granit et de mer. De blanches digues s'allongeaient, portant très loin les grêles colonnes des phares. Par-delà les faubourgs de la ville, se prolongeaient de vastes chantiers penchant vers les bassins les carènes des futurs navires, incessamment retentissant de martèlements cadencés. Derrière les poupes s'alignaient à l'infini de hauts et larges cubes de madriers de Norvège, laissant entre eux de stricts couloirs où nageait un parfum de résine. L'imagination de l'homme se faufilait dans les détours familiers de ce labyrinthe, tapissé d'un gazon dru et frisé, sur lequel s'ébattait une gazouillante volée d'enfants, aux mains souillées de goudron, aux vêtements attristés d'acros et de taches. Il concentrait toute sa puissance mnémotechnique sur ces figures éparses, mais des noms qui s'offraient à lui, il n'en pouvait articuler aucun d'une façon précise. Entre toutes, une vision l'arrêtait. C'était une agile et blonde fillette dont les pieds tannés d'un hâle salin frétillaient sous une robe bleue déteinte. Il se rappelait l'avoir un jour couronnée d'un diadème de coquillages et de ces chardons céruléens dont les racines rampent dans les sables tels que des cordes grasses. Mais de même que ses autres compagnons d'enfance disparus depuis lors, sans qu'il eût conservé de relations avec un seul d'entre eux, l'enfant qu'il avait aimé était fortuitement parti au loin, et jamais plus il n'avait entendu parler d'elle. Poussant un soupir de regret, l'étranger poursuivit le cours de sa rêverie. Au chantier avaient succédé de petits jardins des bas quartiers, dont les carrés de choux rouges et de pommes de terre étaient séparés par de vivaces haies de sureaux ou de courbes épaves de navires, égayées par des touffes capiteuses de romarins et d'angéliques. Là encore, il reconnaissait beaucoup de figures d'amis. Par malheur, il y avait de longues années, qu'ils ne s'étaient enquis de leur situation, et ils l'avaient sans doute totalement oublié. À ce moment, un bref temps d'arrêt se produisit dans les fuyants rappels de cette imagination. Il me sembla que le rêveur éprouvait une complète fatigue, un écœurement absolu, et je ne vis plus rien. Cet état de prostration ne se prolongea pas. Comme le flot impétueux d'un jeune sang, de recrudescentes souvenances affluèrent vers la cervelle du solitaire. Une autre ville de la mer, située celle-là dans les dernières brumes septentrionales, s'offrit à lui. C'était en un quartier de matelots, éclatant d'un vacarme de rixes et de jurons, et sur lequel pesait un fumeux brouillard d'alcool et de tabac. Des treuils rubicondes dans le brouillard se balançaient avec de vagues sourires. Des servantes fardées, aux lèvres connues, versaient de brutales eaux de vie et de machinales caresses. L'étranger se récapitula amèrement les noms des camarades de son âge mûr. Il lui était devenu aussi inconnu que les amis de sa jeunesse. Alors les paysages de sa mémoire varièrent encore, et ce fut une île tropicale endormie dans la splendeur des feuillages et des floraisons qui semaient leurs pétales vers le clair océan. Mais un long paquebot salit l'azur de ses cheminées vomissantes. Forcé par les circonstances, l'homme s'embarqua, et sur le pont, il agitait encore de vagues gestes d'adieu, auxquels répondaient du rivage de plaintives mains féminines de plus en plus lointaines. Longtemps encore et vainement, l'homme compulsa tous les séjours et toutes les fréquentations de ses voyages. Du gouffre de plus en plus ténébreux de son souvenir, ne surgissaient que des indifférents ou des morts. Une profonde lassitude d'âme l'envahit. Il constata avec désespoir qu'il était possédé par la solitude. À contempler la pluie de plus en plus copieuse et torrentielle dans la rue de plus en plus déserte, la salle où la nuit s'installait et dont pendaient les tentures moisies, il se sentit un égal dégoût de partir ou de rester, et s'affaissa sur les journaux 100 fois lus, sur les journaux crasseux et ressassés comme le reste. À cet instant, les lampes furent enfin apportées. Alors je poussai un faible gémissement, et il me parut qu'on m'entrait dans le cœur la pointe vive d'un glaçon, car je venais de constater que c'était, dans le teint boueux de la glace, le propre reflet de ma face vieillie que je contemplais, et que c'était mon propre délaissement que je venais de distraitement scruter avec tant d'inutile et soigneuse cruauté. »